Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les aventures de Tintin au pays des Soviets est le premier album consacré au jeune reporter belge Tintin et à son chien Milou. Créé par Hergé pour Le Petit 20e et publié en feuilleton de janvier 1929 à mai 1930. Cette bande dessinée constitue moins une aventure pleinement mûrie que le laboratoire initial de toute la série. Envoyé en Union soviétique, Tintin y observe et combat les abus que le récit attribue au régime bolchevique. Le livre relève donc à la fois du récit de poursuite burlesque, de la satire politique et du document sur les débuts de la bande dessinée franco-belge. Son regard sur la Russie est fortement tributaire du contexte catholique conservateur et anticommuniste de sa commande, ce qui impose une lecture historique et critique. Malgré un dessin encore irrégulier et une intrigue construite par rebondissements successifs, Hergé y affirme déjà une remarquable énergie narrative. L'album permet surtout de voir naître les codes visuels, comiques et aventuriers qui feront la singularité durable de Tintin. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une première aventure façonnée par la commande anticommuniste. Le voyage de Tintin en Union soviétique ne procède pas d'une enquête documentaire menée par Hergé sur place. Il répond au cadre idéologique du Petit 20e, supplément jeunesse d'un journal catholique belge dirigé dans un esprit nettement anticommuniste. Le récit présente ainsi la Russie soviétique comme un espace de coercition, de misère, de fraude électorale et de mise en scène destinée aux visiteurs occidentaux. Cette perspective est essentielle pour comprendre l'album sans le réduire à une simple histoire de poursuite. Hergé mobilise des motifs de propagande déjà présents dans les discours hostiles au bolchevisme, puis les transforme en obstacles concrets pour son héros. Les autorités et leurs agents ne sont pas étudiés dans leur complexité sociale ou politique, ils servent principalement à déclencher des menaces et des gags. Une lecture actuelle doit donc distinguer deux plans. Le premier est la valeur historique du témoignage sur une culture politique belge de la fin des années 1920. Le second est la valeur fictionnelle d'une satire qui simplifie radicalement son objet. Cette distance critique ne retire pas son importance au livre. Elle montre au contraire comment une œuvre populaire peut refléter les sources, les préjugés et les contraintes éditoriales de son époque. Deuxièmement, Tintin et Milou apparaissent déjà comme un duo narratif efficace. Cet album fonde le couple Tintin-Milou, qui devient immédiatement le moteur humain et comique de la série. Tintin possède déjà les qualités qui définiront son rôle: curiosité, courage, débrouillardise, aptitude à conduire ou réparer des véhicules et refus de céder devant le danger. Toutefois, il ne correspond pas encore tout à fait au héros plus posé des albums ultérieurs. Il agit souvent dans l'urgence, improvise des solutions invraisemblables et traverse les épisodes avec une indestructibilité de personnage burlesque. Milou occupe une place particulièrement active. Ses réactions, ses commentaires et ses initiatives créent un contrepoint ironique aux prouesses de son maître. Cette répartition est importante, car elle évite que le récit devienne une succession purement mécanique de périls. Tintin fait progresser l'action, tandis que Milou introduit une distance comique et une présence animale expressive. Le duo établit aussi une relation de fidélité sans besoin de longues explications psychologiques. Hergé privilégie la lisibilité immédiate à un héros reconnaissable, un compagnon qui réagit à ses risques, puis une résolution rapide. Cette économie annonce la capacité future de la série à rendre ses personnages universellement accessibles, même si leur caractérisation demeure ici plus schématique que dans les grands albums de maturité. Troisièmement, le rythme du feuilleton privilégie la relance permanente de l'action. Tintin au pays des Soviets a été conçu semaine après semaine, ce qui explique sa structure faite de péripéties enchaînées plutôt que d'une enquête organisée autour d'un mystère central. Chaque danger appelle une échappée, chaque moyen de transport ouvre une nouvelle scène et chaque victoire provisoire produit une nouvelle menace. Trains, automobiles, avions, motos ou embarcations deviennent ainsi des instruments de mouvement avant d'être des éléments réalistes du décor. Cette logique procure au livre son énergie singulière. Hergé sait déjà cadrer une collision, une chute, une poursuite ou un retournement afin que le lecteur comprenne immédiatement le risque et la direction de l'action. Le suspense repose moins sur la profondeur des antagonistes que sur la question pratique de la survie de Tintin dans la case suivante. En revanche, cette méthode comporte une limite visible, certaines transitions paraissent arbitraires et les enjeux politiques annoncés servent surtout de prétexte à la cavale. Les lecteurs habitués aux constructions plus élaborées du Lotus bleu ou des 7 boules de cristal y verront une œuvre d'apprentissage. Pourtant, cette apparente dispersion permet d'observer la naissance d'une compétence capitale chez Hergé, maintenir l'attention par une circulation très claire des corps, des objets et des véhicules dans l'espace dessiné. Quatrièmement, un dessin encore brut où se dessinent les futurs principes de clarté sur le plan graphique. Le premier Tintin diffère nettement des albums qui ont installé la réputation de Hergé. Les personnages ont des expressions plus sommaires, les proportions varient. Les décors sont parfois réduits à leur fonction immédiate, et la mise en page conserve la marque d'une production rapide pour la presse. Le dessin ne relève pas encore pleinement de la ligne claire, avec son trait maîtrisé, ses décors documentés et sa précision constante. Il serait néanmoins réducteur de ne voir dans cette matière qu'une maladresse de jeunesse. La lisibilité de l'action est déjà une priorité très nette. Hergé isole les gestes décisifs, rend les trajectoires compréhensibles et utilise la caricature pour distinguer rapidement alliés, poursuivants et dangers. La célèbre houppette de Tintin prend aussi forme dans le mouvement soulevé pendant une course automobile, elle devient un signe visuel durable de vitesse et d'identité. Le contraste entre la gaucherie locale et l'efficacité générale rend l'album précieux pour comprendre un apprentissage artistique. On y voit un auteur qui ne maîtrise pas encore tous les outils de son style, mais qui possède déjà le sens de la scène, du découpage et du gag visuel. Les éditions en couleur améliorent pour certains la lisibilité, tout en laissant ouverte la question du respect de la texture originelle en noir et blanc. En dernier lieu, une pièce historique à lire avec les limites éthiques de son époque. La place particulière de Tintin au pays des Soviets dans le corpus explique les réactions contrastées qu'il suscite. Longtemps peu accessible hors de réédition ou de fac-similé, il a acquis un statut presque archéologique, celui de la première trace d'une œuvre qui deviendra mondiale. Sa valeur ne tient donc pas seulement au plaisir immédiat de l'aventure, mais à ce qu'elle révèle du chemin parcouru par Hergé. Le lecteur y constate que la rigueur documentaire, la construction scénaristique et la nuance géopolitique des albums ultérieurs ne sont pas encore présentes. Cette évolution est capitale après sa rencontre avec Chang Chongzhen lors de la préparation du Lotus Bleu. Hergé modifiera profondément sa manière de se documenter et de représenter les pays étrangers. Lire les Soviets dans cette continuité évite deux erreurs opposées. La première serait de le célébrer comme un portrait fiable de l'Union soviétique. La seconde serait de l'écarter comme une simple curiosité embarrassante. Le livre mérite une lecture contextualisée, attentive à ses stéréotypes idéologiques comme à ses innovations formelles. Il montre comment une bande dessinée de jeunesse peut porter les biais de son milieu tout en contenant déjà les germes d'un langage graphique majeur. Cette double nature en fait un objet utile pour la critique culturelle autant que pour l'histoire de la bande dessinée. En conclusion, Les aventures de Tintin au pays des Soviets convient en priorité aux lecteurs qui souhaitent comprendre les origines de Tintin, aux amateurs de bande dessinée franco-belge et aux personnes intéressées par les liens entre culture populaire, presse et idéologie au début du XXe siècle. Ce n'est pas nécessairement le meilleur point d'entrée pour découvrir la série, son dessin sommaire. Son récit très épisodique et sa caricature politique peuvent dérouter un lectorat habitué à la sophistication des albums ultérieurs. Il prend en revanche une force particulière après la lecture de quelques grands titres de maturité, car il rend les progrès de Hergé immédiatement visibles. Le bénéfice intellectuel majeur réside dans cette comparaison. Le lecteur peut suivre le passage d'une bande dessinée de commande fondée sur la relance comique et la satire, vers une œuvre plus documentée et plus complexe. L'album invite aussi à exercer une lecture critique des représentations politiques, en identifiant ce qui relève du contexte de production plutôt que d'un savoir équilibré sur la Russie soviétique. Par rapport à d'autres récits d'aventure pour la jeunesse de son époque, il se distingue par son importance fondatrice et par son extraordinaire sens du mouvement déjà perceptible. Il ne vaut pas seulement comme relique pour collectionneurs, avec son appareil historique ou une mise en contexte personnel. Il devient une étude concrète de la naissance d'un héros, d'un style narratif et des limites que toute œuvre ancienne demande à être lue avec lucidité. Si vous souhaitez soutenir Hergé, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.